Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Les mystères d'Osiris. Conférence par Didier Carrier, philosophe, à l'espace Volon, à Lyon, le jeudi 10 février 2022.
Bonsoir. Vous avez une image qui peut se résumer assez simplement pour donner une idée, un concept qui sera celui d'Osiris, puisque c'est le hiéroglyphe qui est le nom d'Osiris. En fait, ce qui constitue le nom, c'est-à-dire l'identité divine en Égypte, est très important pour capter la dimension métaphysique qu'elle contient. Là, ce qu'on a, c'est le trône de l'œil. Comme vous le savez sans doute, le mot Osiris était donné par les Grecs, qui ont entendu phonétiquement quelque chose qui ressemblait à ça, et c'est devenu Osiris. Mais c'était certainement pas ça. Voilà. C'était certainement pas ça, puisque c'est une traduction purement phonétique. Ce qu'on peut dire, c'est que ce trône de l'œil représente le siège d'un pouvoir discernant. D'accord ? Donc, le trône, c'est le siège d'un pouvoir. Et il a un attribut particulier, ce pouvoir, c'est qu'il est discernant, parce qu'il a, avec l'œil, il peut voir et faire des choix. Le petit personnage qui est à côté est une momie en position fœtale, qui est un autre concept associé à cette possibilité majeure qui est celle de ce pouvoir, qui est le pouvoir de régénération et de résurrection. Donc on a un siège de puissance, une identité discernante et une possibilité de régénération et de résurrection. Et juste au-dessus, on peut dire au-dessus d'une espèce de coupole qui identifie le monde souterrain, puisque c'est l'arbre qui pousse et qui a des racines souterraines qui sont l'identité d'Osiris. D'accord ? Donc les racines de cet arbre, c'est Osiris. C'est soit un acacia, soit un sycomore, selon les versions, en rapport avec le mythe fondateur d'Osiris. Et c'est cet arbre-là qui va représenter la puissance régénératrice et procréatrice d'Osiris. Voilà. On pourrait dire que vous savez tous des mystères d'Osiris que j'ai fini, mais rassurez-vous, je vais aller un peu plus loin pour clarifier un peu plus tout ça. Le culte d'Osiris est probablement le culte de nature religieuse le plus long de l'histoire connue de l'humanité. Pourquoi ? Parce que on va trouver des lieux de culte à Osiris à Pompéi. Et les premières traces dans l'Égypte prédynastique existent, donc vous voyez l'intervalle de temps qui est colossal, démontre une vraie puissance d'impact par rapport à la dimension métaphysique qui est véhiculée par ce personnage de la mythologie. Les versions du mythe que nous avons sont des versions plutôt de nature populaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier le nom d'Osiris des mystères, parce qu'une large part de ce qui est en relation avec cette identité divine, n'était pas publique. Pour schématiser, et pour que vous compreniez mieux, il existe deux religions qui cohabitent en Égypte, et qui ont cohabité pendant toute l'histoire de l'Égypte. Une religion de nature populaire et solaire, et une religion de nature interne, qui se déroule à l'intérieur des lieux cryptés des temples et qui est plutôt de nature stellaire. Grosso modo, on identifie en Égypte deux niveaux du ciel, le niveau du soleil et ce qui est derrière le soleil. De sorte que des divinités de nature solaire comme Amon, par exemple, dont le culte était à Thèbes, a une identité populaire dans sa forme, entre guillemets, visible, tout est relatif, mais c'est plutôt dans l'esprit d'une religion stellaire, l'esprit qui se cache derrière le soleil. C'est important cette petite introduction pour que vous compreniez pourquoi on va associer mystère avec Osiris. De la même façon, il existe deux paradis dans la conception spirituelle de cette forme de religion. Un paradis plus populaire qui est assez proche du paradis de nos religions méditerranéennes, c'est-à-dire de l'eau pure qui coule, des fontaines, des arbres, des jardins, voilà, hein, dans lesquels on mène une vie paisible dans l'au-delà, totalement détachée de la réalité du monde incarné, et une autre religion, toujours de nature stellaire, qui est plutôt identifiée dans les plafonds des tombeaux pharaoniques, par exemple. Vous en avez un magnifique exemple dans la tombe de Ramsès VI, avec un plafond qui raconte la totalité de l'histoire mythologique du ciel profond, tel que les Égyptiens se le représentaient. Dans ce paradis stellaire, ce n'est pas un paradis de repos, c'est un paradis de travail. Puisque celui qui va être admis dans ce paradis-là devient co-régent des structures de l'univers. Un pilier du ciel, si vous voulez. Voilà. Et donc le pharaon, quand il va désincarner, qui est destiné à migrer dans cette région du ciel, va participer avec les dieux des structures de l'univers. Et donc de son équilibre. Ça permet de mieux comprendre l'importance donnée au tombeau et bon, un certain nombre d'autres concepts. L'autre élément prédominant, c'est que bien que de façon commune, on considère Osiris comme un dieu des morts, ce qui est assez paradoxal pour une divinité qui va être vénérée pendant 5000 ans, mais bon, c'est comme ça, bon, voilà. Malgré cette idée, ce n'est pas une divinité en rapport avec la mort, mais au contraire, avec la vie et la renaissance en général, et toutes les formes de transformation. La raison essentielle de pourquoi c'est devenu un dieu des morts, une cause métaphysique, on va dire, c'est qu'il va arbitrer les étapes de la transfiguration vers l'autre rive, c'est-à-dire vers l'autre destination de l'existence. Le mot « mort » n'existe pas dans la langue égyptienne. Ce mot n'existe pas. On parle de passer à son « ka ». Le « ka », qui est identifié par un hiéroglyphe qui sont deux bras levés de cette façon-là, c'est l'énergie vitale. Donc, quand on passe au « ka », ça veut dire qu'on va quitter le monde matériel pour rentrer dans un monde plus lié à l'énergie et à l'invisible. Voilà. La frontière est importante à comprendre pour pouvoir aller en profondeur dans les mystères d'Osiris. Un petit schéma s'impose. Le monde de la création, c'est-à-dire le monde manifesté, incarné, celui dans lequel nous sommes, vient d'une autre dimension qui s'appelle Nun, en Égypte, et qui est le lieu de tous les potentiels et de tous les avenirs possibles. Donc ça veut dire que ce qui va sortir du Nun, on va voir comment, va engendrer et continuer d'engendrer pour l'éternité, puisque pour les Égyptiens, la création n'est jamais achevée. Elle est un continuum permanent. toujours des choses vont sortir de cet océan de virtualité. Et il existe un intermonde qui est ici, qui a la forme d'un œil, qui est l'espace dans lequel résident les dieux et les temples pour une partie. Le temple égyptien, si on fait un schéma assez rapide, c'est une chapelle cloîtrée avec un couloir mystérieux, une salle hypostyle, donc à colonnade, une cour carrée et deux pylônes ici qui constituent la porte d'entrée. Bon, je suis pas très habile vu le tableau où il est mis. Donc, un lieu qui est parfaitement associé au monde manifesté, une cour carrée à ciel ouvert, d'accès public, tout le monde peut y aller. Un espace intermédiaire qui correspond à cette zone-là, qui est un peu la frontière, si vous voulez. Hein? Le lieu du passage, qui est la salle hypostyle, à colonne. Voilà. Qui, elle, est couverte, c'est-à-dire le toit, mais pas complètement, parce que le toit est ajouré, ça veut dire qu'il y a des trous dans le toit, qui permet à la lumière de passer. Donc là, on est dans un monde de pleine lumière, là, on est dans un monde de mi-lumière, et là, on est dans l'obscurité matérielle, complète, il n'y a pas de fenêtre. C'est le noir complet, le noir physique complet, qui correspond à cet endroit-là, c'est-à-dire le lieu où les choses passent d'un plan vers un autre plan. Et celui qui va pouvoir accéder là, le pharaon, entre autres, et quelques prêtres cloîtrés, qui restent à vie dans le temple, vont mener une existence dans cet intermonde permanent et vivre dans cet équilibre difficile à gérer, qui est d'être dans le monde manifesté et en même temps dans l'âme droite, c'est-à-dire l'invisible. C'est le mot droite ou âme droite, c'est le mot égyptien pour identifier le monde invisible. Ça va? Bon. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Mais parce que ça, c'est le lieu des mystères. Là, il n'y a pas de mystère. Là, on est dans la dimension populaire de la religion, avec beaucoup d'éléments qui transitent d'un plan à l'autre, puisque grâce à la voie sacrée ici, la statue du dieu, ou plutôt son double, celle qui est dans le Naos ici, était sortie sur une barque rituelle portée par des prêtres, et allait à l'intérieur de la cour carrée pour que la population puisse vénérer la divinité. Et c'est ce transit de la barque avec la statue qui va établir la relation permanente entre visible et invisible, entre les dieux et le peuple. Voilà. Donc, ce que je voudrais essayer d'exprimer, en tout cas, ce que je sais, ce que je connais, c'est qu'est-ce qu'on peut envisager de ce qui se passe ici. Parce que tout ça, c'est connu. On a des papyrus, on a des images, on a des statues, on a des éléments, mais les statues divines qui se trouvaient à l'intérieur du Naos ont, pour l'immense majorité d'entre elles, été fondues parce qu'elles étaient en or massif, et donc volées, fondues et disparues. Et c'était pas des statues gigantesques. Les Naos, c'est 50 cm, 1 mètre. Les statues divines, elles faisaient 50 cm de haut. D'accord? Ce qui est un peu déroutant par rapport aux statues qu'on voit à l'extérieur qui sont, elles, plutôt gigantesques. Vous comprenez? Les deux mondes ne fonctionnent pas selon les mêmes règles. C'est pas la même chose. Bon, voilà. voilà, rapidement, pour situer où est-ce qu'on va aller. On va aller, on va essayer d'aller à la porte qui est là, voilà. On va pas prétendre rentrer, mais on va vous mettre devant la porte pour comprendre ce qui se passe. Le culte d'Osiris, par rapport aux éléments de l'histoire connue, aujourd'hui, parce que j'ai dit histoire connue parce que on découvre en permanence des choses en Égypte, donc l'histoire change, l'histoire d'Égypte change beaucoup, elle a déjà beaucoup changé dans les 30-40 dernières années, et elle va continuer à changer. En général, elle change parce qu'elle s'allonge. Dans les périodes prédynastiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe déjà un culte à Osiris. Et l'identité divine s'est constituée à partir de deux concepts qui sont résumés dans une autre forme de manifestation divine qui sont deux attributs qui sont généralement représentés par le fouet et le crochet portés croisés sur le cœur. Le crochet est un attribut pastoral, c'est-à-dire une espèce de crosse pour attraper les moutons par les pattes, encore utilisé aujourd'hui au Pays Basque ou dans le Sud-Ouest. En tout cas, j'en ai vu utilisé. D'accord ? Donc ce crochet, il identifie pour Osiris une dimension pastorale. Et l'autre attribut, qui ressemble à un fouet, mais qui n'est pas un fouet, c'est un fléau à graines. C'est-à-dire un outil que les paysans utilisent pour séparer le bon grain de l'ivraie, hein, en frappant dessus, comme ça existait à l'époque où on n'avait pas les moyens mécaniques. Donc vous voyez, c'est intéressant, parce que les deux attributs d'Osiris sont en rapport avec une dimension agricole, globalement. Ce qui est un peu déroutant par rapport à l'idée qu'on se fait de son identité divine. Mais dans la réalité, ces deux instruments symboliques qui vont devenir les emblèmes du pouvoir royal représentent la capacité de ce pouvoir royal de pourvoir aux besoins du peuple. C'est pour ça qu'Osiris est considéré comme un dieu bon, bienveillant et bienfaiteur pour l'humanité. Parce qu'il va, par son pouvoir de génération et de régénération, amener au peuple une espèce d'opulence, ou on va dire, de bon fonctionnement, qui permet un équilibre. Et c'est la raison pour laquelle, en Égypte, le déséquilibre alimentaire était un souci majeur du pouvoir, et c'est la raison pour laquelle tous les pharaons créaient des silos, des lieux de stockage pour prévoir les années de disette ou les risques de disette, si la crue était pas bonne ou si se passait quelque chose de pas prévu, on va dire, comme ça. Voilà. Donc, cette capacité d'Osiris de pourvoir aux besoins matériels de l'existence va constituer la majorité des éléments du culte populaire à travers une cérémonie qui avait lieu une fois par an pendant la fin du mois de Koyak, qui est la fin de la crue, si vous voulez, le moment où les eaux du Nil vont se retirer et dépose le limon fertile. Voilà. Pour vous situer à peu près dans le calendrier d'aujourd'hui, ça correspond au 25 octobre, la fête d'Osiris. Voilà. Donc, cette tradition populaire était très suivie dans l'ensemble de l'Égypte, indépendamment des identités divines locales, qui n'étaient pas toutes Osiris, bien sûr. Et on assistait à des rituels dans lesquels la population fabriquait des petites momies d'Osiris avec la boue du Nil, mises dans un sarcophage, dans lesquels on venait planter de l'orge, qui était arrosée pendant 9 jours pour la faire germer et démontrer ainsi le pouvoir générateur ou régénérateur d'Osiris. Voilà. Ça, c'est pour la dimension populaire. Encore une fois, très importante parce que elle va rythmer une grande partie des 3 saisons, une consacrée à Osiris, une consacrée à Isis et une consacrée à Horus, qui sont les 3 divinités majeures. Mais ça ne fait pas partie des mystères, ça c'était public. Bon. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? De l'autre côté, c'est-à-dire dans la zone fermée, on va dire, non publique du temple. Comme cette divinité a un pouvoir de régénération et de transmutation, les événements qui sont associés sont liés au développement de l'âme humaine et à la capacité des hommes de changer de forme d'existence, c'est-à-dire de franchir le seuil qui les met en contact avec le monde des potentialités où tout peut de nouveau renaître et se recréer. Du point de vue de l'Égypte ancienne, l'homme a le pouvoir interne de passer dans ce plan-là s'il remplit un certain nombre de conditions. Du point de vue populaire, comme le mot mort n'existe pas et qu'on dit qu'on passe à son cas, chaque défunt devient un Osiris. Et c'est pour ça que le nom des défunts est toujours précédé du mot Osiris. Si c'est Monsieur Durand qui passe de l'autre côté, il s'appelle plus Durand quand il est passé de l'autre côté, mais Osiris Durand. Bon, si c'est Dupont, c'est Osiris Dupont, rassurez-vous. Bon. Donc, globalement, chaque être vivant, humain, qui passe dans l'autre dimension, devient potentiellement un Osiris. Et c'est pour ça que la momification n'est absolument pas un moyen de conserver des corps. C'est pas du tout le but. Le but de la momification, c'est de transformer les restes d'un être vivant en statue d'Osiris. Et du coup, chaque tombeau créé, qui contient une momie, devient un temple dédié à Osiris. Là, on commence à mieux comprendre de quel mystère on parle. Parce que ça veut dire aussi que l'ensemble des lieux funéraires deviennent des moyens d'entretenir la présence divine dans toute l'Égypte, parce que, imaginez-vous, avec le temps, le nombre de lieux de culte à Osiris qui se construisent à travers les tombeaux, à travers les tombes. Et c'est très important pour le culte d'entretenir la présence divine parce que elle permet, selon la conception métaphysique égyptienne, à ce que le Dieu reste à cheval entre les deux mondes et continue d'alimenter le lien mystique pour tous les Égyptiens. Voilà. Donc, cette capacité de passage, c'est l'aspect mystère propre à Osiris, qui du coup, parce qu'il trône dans le tribunal de l'au-delà, tout à l'heure je vous montrerai une image où on voit clairement le nom d'Osiris dans sa forme hiéroglyphique devant la pesée de l'âme, que vous connaissez sans doute, mais c'est ce pouvoir-là qui est intéressant, c'est qu'il va permettre, en tant que juge des morts, ou président du tribunal des morts, d'autoriser le passage d'un plan vers un autre plan. Voilà de quel mystère on parle. Mais cette réalité n'est pas valable que pour les êtres qui passent physiquement dans l'autre plan. Elle est accessible à ceux qui seront, comme disent les textes, justifiés de leur vivant. Autrement dit, des conditions existent à remplir pour mourir en restant vivant, pour pouvoir changer de plan tout en restant dans le plan matériel. Voilà ce que ça veut dire. Et ce sont les mystères d'Osiris. Si vous allez à Abydos, vous trouverez, derrière le cénotaphe de Séti Ier, une crypte, aujourd'hui à ciel ouvert, qui, à l'époque, était recouverte par un toit mégalithique. Cette crypte est très ancienne, elle n'est pas datable, et elle est faite avec des énormes blocs, assez comparables au temple de la vallée, au pied du Sphinx. Cette crypte, qui contient un sarcophage, ou plutôt un tombeau vide, qui n'a jamais été un lieu d'ensevelissement, est immergeable. Des systèmes d'écluses et de canaux pouvaient amener l'eau du Nil pour noyer la crypte. Et évidemment, la vider. Intéressant, à quoi peut bien servir un tombeau immergeable? Un certain nombre de textes, appelés textes des pyramides, donnent quelques indications sur le sujet. Et il semble, parce que ceci n'est pas attesté par suffisamment d'éléments concrets, il semble que quelques personnages, au cours d'une cérémonie très particulière, étaient symboliquement ensevelis dans ce tombeau, fermé par une dalle, et noyé pendant un certain temps, et ressortir un certain temps après, toujours vivant physiquement. Voilà. Tout ça est vérifiable parce qu'on voit les canaux qui arrivent, qui peuvent amener de l'eau, en fait. Et tout ça n'est pas scientifiquement, entre guillemets, explicable ou rationnellement explicable. Mais en tout cas, ça se présente de cette façon-là. C'est probablement de cette façon qu'avait lieu l'initiation égyptienne pour ceux qui se destinaient à habiter dans le plan représenté par l'œil ici. Et qui devait donc, pour pouvoir arriver là, satisfaire un certain nombre d'exigences, dont a priori celle-ci, c'est-à-dire survivre à une noyade rituelle, pour pouvoir accéder à l'autre partie du temple. Alors, quel est le lien avec Osiris? Mais dans le mythe osirien, c'est le premier qui va vivre la noyade rituelle. C'est-à-dire que vous savez, sans doute, que dans son combat contre son frère ennemi, Seth, il va être fait prisonnier dans un coffre qui va devenir le premier sarcophage, ou le modèle du sarcophage, le modèle symbolique du sarcophage, soigneusement refermé, et le tout jeté dans le Nil, donc il va se noyer. Mais, par un certain nombre d'opérations où interviennent Isis, Anubis et Nephthys, il va sans pouvoir être régénéré, il va pouvoir renaître, et d'une certaine manière, il va représenter celui qui ouvre le sentier du passage, puisque c'est le premier parmi les vivants qui va s'affranchir de la mort terrestre. Voilà, ça c'est le sujet qui est traité dans le mythe qui lui est populaire. qui ne parle pas d'initiation, puisqu'on ne parle pas d'autres gens, entre guillemets, ou d'autres personnes, que d'Osiris, dans cette histoire-là. Je ne vais pas détailler, parce que ce n'est pas le but, c'est plutôt du domaine de la religion populaire. Le mythe a une lecture à deux niveaux, dans lequel, dans un cas, Seth est le méchant, et dans l'autre cas, Seth n'est pas le méchant, mais l'initiateur. C'est-à-dire celui qui va permettre de vivre l'expérience du passage. Donc vous voyez, c'est assez décalé, hein, parce que d'un côté, on a le méchant qui est totalement méchant, comme dans toutes les bonnes séries hollywoodiennes, et de l'autre côté, on a autre chose. Quelque chose qui est ambigu, contradictoire. Alors, de quelle autre condition parle-t-on ? On voit qu'il faut s'affranchir des contraintes de la vie matérielle, et donc, il y a la noyade rituelle. Ça, c'est un aspect du sujet. Dans les mystères d'Osiris, il y a aussi la pesée de l'âme. La fameuse psychostasie. Toujours la même façon, deux niveaux de lecture. La psychostasie au vu de la religion populaire, où on va peser le cœur conscience du défunt, dans un plateau, et de l'autre côté, la plume de Mahat, qui est la divinité qui représente la justice, et il faut que le cœur conscience soit aussi léger que la plume. Si le cœur est trop lourd, lourd des fautes, des erreurs, des difficultés de la vie terrestre, alors celui qui est devant le tribunal, le défunt, va être dévoré par un monstre hybride qui tient à la fois du lion, du guépard et de la femelle hippopotame. Je schématise. C'est intéressant parce que la femelle hippopotame, c'est la divinité de l'enfantement en Égypte. Donc vous voyez qu'il y a un petit indice là, intéressant. C'est-à-dire que celui qui est destiné à renaître, qui est représenté sur toutes les peintures et sur les papyrus, par des hommes tête en bas, ça veut dire qu'ils sont obligés de redescendre vers le monde matériel, voilà, ceux qui ne sont pas justifiés, ils vont être avalés par ce monstre qui va, et la conception de la réincarnation existe en Égypte, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je vais pas le traiter, mais on a des éléments très concrets pour montrer que les Égyptiens ont intégré la réincarnation, donc le défunt non justifié est destiné à renaître. Celui qui est justifié, lui, va quitter le cycle normal de l'existence, on va dire. S'il est mort physiquement, il va rentrer dans l'Amenti, le paradis, qui est le sommet de la Hamdouat, c'est-à-dire le sommet de du monde invisible, je schématise rapidement. S'il a réussi la pesée, ça veut dire que la conscience était vierge de toute faute, en tout cas de toute faute incompatible avec le passage dans cette autre dimension de l'existence. Alors, je reviens sur le cœur, parce que c'est un élément déterminant pour les Égyptiens. Il y a deux formes du cœur, il y a la forme physique, qui s'appelle Hati, et la forme spirituelle qui s'appelle Ib. Hati et Ib, ce sont les deux noms du cœur qui ne font qu'une seule réalité. Le cœur, symboliquement pour les Égyptiens, a la forme d'un vase. C'est-à-dire c'est un contenant. Qu'est-ce que contient le cœur ? Il contient la conscience, il est le siège de l'imagination et de la mémoire en Égypte. Donc, ce qui va passer sur l'autre rive, matériellement ou pas, c'est ce contenu, d'accord, qui est véhiculé par ce contenant qui est le cœur, Ib. Le passage dans la pesée signifie la capacité de voyager d'un plan à l'autre de l'existence à volonté. Et c'est la raison pour laquelle toutes les chapelles funéraires possèdent une représentation matérielle, une statue du défunt, qui va servir de réceptacle lorsque celui qui est passé dans la mentie veut revenir voir ce qui se passe dans le monde matériel. C'est une chapelle avec une table d'offrande et on vient offrir de l'énergie au cas du défunt, ça va, qui est dans un endroit qui s'appelle le Serdab, dans la tombe égyptienne. Voilà. Donc, j'insiste sur l'idée que la pesée va donner une compétence, entre guillemets, spirituelle, qui consiste à transiter d'un plan à un autre de façon totalement volontaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a plus d'empêchement pour celui qui a été jugé juste de voix, Maha Keru, en égyptien. Maha Keru. Juste de voix. Ça veut dire que sa voix ne porte pas de mensonge. D'accord? Il dit la vérité toujours. Donc voilà l'autre élément déterminant, c'est-à-dire la pesée de l'âme. Le cœur-conscience et la capacité de s'affranchir des contraintes de la vie matérielle à travers l'histoire de la noyade rituelle. Bien. Ce qui est intéressant dans la représentation de la divinité, c'est qu'elle est représentée monopode. Alors, symboliquement monopode, c'est-à-dire qu'en fait, la momie, recouverte de bandelettes, n'autorise plus aucun mouvement physique, de fait, mais en même temps, transforme ce qui était double, les deux jambes, dans une unité. Raison pour laquelle un des attributs d'Osiris est le pilier Djed. Pilier Djed, c'est une espèce de colonne qui représente la colonne vertébrale et au sommet les quatre vertèbres cervicales. Et l'atlas au-dessus qui tient la tête. Ce pilier Djed s'appelle en égyptien stabilité. Donc, qu'est-ce que c'est que cette stabilité? C'est la stabilité de celui qui reste debout, indépendamment des circonstances, sur un seul pied, qui n'a donc plus besoin de la dualité pour rester en équilibre. S'affranchir de la dualité, c'est aussi une des conditions du passage de celui qui se destine à vivre dans cette espèce d'intermonde-là. Et les rites de stabilité vont intégrer une grande partie de la vie du pouvoir en Égypte, puisque à l'occasion des 30 ans du règne, pour le jubilé du pharaon, quand il arrivait jusque-là, il devait symboliquement redresser le pilier Djed pour démontrer sa capacité à la stabilité. Et donc, on voit une autre composante qui est réclamée, qui donne cette faculté, et on le voit dans certaines représentations où le pilier Djed se courbe. Si vous allez à Saqqara, vous verrez des piliers Djed recourbés. Très étonnamment. C'est-à-dire que la stabilité ne veut pas dire la rigidité. C'est au contraire une grande souplesse qui va permettre la stabilité et l'adaptation. l'adaptation à l'environnement et aux circonstances. Donc, les épreuves pour passer de l'autre côté, de son vivant, vont aussi être en relation avec la stabilité, en plus d'être juste de voie. Et donc, probablement, des épreuves de stabilité étaient faites pour ceux qui avaient possibilité d'accéder à l'initiation en Égypte. Voilà. Et d'autres éléments que je ne vais pas détailler. Donc, vous voyez la nécessité permanente pendant 5000 ans de donner l'opportunité de cohabiter avec le plan divin. Donc, la possibilité pour l'homme, grâce au mystère d'Osiris en particulier, de cohabiter avec les mondes invisibles et, j'insiste là-dessus, sans jamais quitter le contact avec la réalité temporelle. De sorte que Pharaon, le premier des initiés, et les prêtres cloîtrés sont chargés de façon permanente d'entretenir cet intermonde en parfait état de fonctionnement. C'est-à-dire capable de véhiculer la lumière divine vers la terre et d'entretenir le grand corps d'Osiris qu'on associe à la totalité du territoire de l'Égypte, à cause de ces fameux 16, 14 ou 42 morceaux du corps d'Osiris dépecé qui étaient jetés par Seth aux 80. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une nécessité permanente de maintenir cet espace de passage en équilibre, on va dire. Et il faut des gens stables pour ça, qui ne sont pas dépendants des circonstances extérieures, des invasions, des déstabilisations politiques, et Dieu sait s'il y en a eu en Égypte, parce que il faut bien comprendre que pendant près de 5000 ans, malgré les invasions, malgré les déstabilisations politiques et les périodes intermédiaires, parce qu'il y a quand même eu deux Moyen-Âge en Égypte, c'est-à-dire une rupture complète des structures du pouvoir, tout ça a continué de fonctionner. Jusque, pour certaines parties, à l'époque romaine. Puisque certains temples étaient en fonctionnement, notamment à Éléphantine, à l'époque romaine. Voilà. Donc, les clés des mystères d'Osiris sont en rapport avec ce qui est perpétuellement régénérable. Un nefer. Perpétuellement régénérable. Cette possibilité de se régénérer de façon perpétuelle est la clé des mystères d'Osiris. Et d'autres éléments, mais disons, c'est ça l'élément central qui permet, en même temps, à chacun, en fonction de son niveau spirituel, on va dire ça comme ça, d'établir un contact avec l'invisible. Parce que les mouvements de la barque dans le temple, entre autres choses, certaines processions hors du temple, vont permettre au peuple de garder un contact avec l'invisible. Voilà les clés. Vous avez tous les éléments avec ça. Et on pourrait développer beaucoup plus, bien évidemment, mais on va avoir un échange tout à l'heure qui va le permettre. Disons que mon objectif, c'était que vous arriviez à capter la coexistence de ces deux dimensions de l'existence qui ne sont pas en confrontation, mais en harmonie. Et le mot-clé de toute l'Égypte qui est porté par Osiris, c'est l'harmonie par opposition. Le fouet, le crochet, harmonie par opposition. Cette harmonie par opposition touche, dans l'Égypte ancienne, toutes les dimensions de l'existence. La rive des vivants, la rive des morts. La haute Égypte, la basse Égypte. Tous les contraires sont harmonisables selon la même règle. Une seule règle pour toutes les contraintes et tous les conflits de l'existence. Et donc celui qui est capable d'harmoniser ses propres conflits intérieurs, sa nature matérielle et sa nature spirituelle, ce que nous sommes dans la réalité, la cohabitation permanente entre les deux natures, pour vivre l'expérience de l'incarnation, c'est ça qui est important. Ça veut dire harmoniser cette opposition. Quel est le message spirituel qui est derrière ça ? Accepter les contradictions de l'existence. Ne pas les rejeter. Il est naturel, je dis bien il est naturel, que notre existence soit de façon permanente contradictoire. Tout peut arriver tout le temps, n'importe quand, n'importe où. Et la clé, c'est être prêt. Celui qui est en équilibre sur une jambe, tel le pilier Djed, est celui qui est stable parce qu'il est prêt à assumer toutes les contradictions de l'existence. Mais en même temps, il est capable de vivre à la fois avec l'esprit dans les étoiles et les pieds parfaitement sur terre. Donc, il est enraciné dans la vie terrestre en assumant les contradictions, mais son équilibre, il le puise dans les étoiles. C'est ça l'enjeu des mystères d'Osiris. Et cet enseignement, qui est vraiment ancestral, j'insiste, a perduré. Ça veut dire que des êtres humains ont pu vivre ces expériences-là pendant toute l'histoire de l'Égypte. Et la liste des justes de voix, des Mahakeru, n'a jamais cessé d'augmenter. C'est pour ça qu'on peut parler de civilisation initiatique, parce qu'elle va donner à l'homme une opportunité de changer radicalement son mode d'existence, sans jamais renier les nécessités de la vie matérielle qu'il doit assumer. Voilà, je voulais conclure avec cet aspect-là, et j'ouvre la porte des questions et des échanges, puisque c'est l'autre façon aussi de pouvoir partager les mystères d'Osiris. Je vous écoute. Il faut rester stable face au micro, mais il n'y a pas de problème.
Je suis stable sur ma jambe, il n'y a pas de souci.
Je vous écoute.
Mais pour le coup, je suis un grand néophyte là-dessus. Je voulais savoir, du coup, si j'ai bien suivi et bien écouté, d'après ce que je comprends, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait une question de, je vais dire classe sociale, mais c'est certainement pas adapté à ce que je suis en train de dire. De personnes qui étaient plus enclins, tout du moins, de montrer ce chemin-là pour justement réussir à traverser. Je suis pas très clair, sans doute.
Non, si, la question est très claire.
Mais est-ce que c'était, par exemple, voilà, c'est que des nobles, voilà, très clairement, qui pouvaient se permettre de montrer le chemin entre guillemets au gueux, si je peux le dire comme ça. Voilà.
Bon. J'ai compris la question, rassurez-vous.
Merci.
Il y a une institution qui va aussi durer toute l'histoire de l'Égypte, qui s'appelle la maison de vie, qui est d'une certaine manière une école où on apprend à vivre. Chaque année, un collège de prêtres dédiés parcourait tous les villages de l'Égypte pour voir si des individus, des enfants, étaient considérés aptes à intégrer ce lieu, la maison de vie, pour devenir scribe, qui est, on va dire, le palier d'entrée. Donc, ce n'est pas un lieu d'une élite ou de notable réservé. Parce que de la maison de vie vont sortir tous les collèges de prêtres, mais pas seulement, tous les dirigeants et tous les administrateurs du pays. C'est-à-dire que les fonctions d'État sont non pas associées à des compétences techniques, mais à des compétences intérieures humaines. Pour cette raison, n'importe qui en Égypte pouvait accéder au tribunal de l'au-delà de son vivant. Voilà. Cette institution, la maison de vie, va exister tout le temps. Il n'y a jamais eu de rupture. Bien sûr, il y a des ruptures de niveau, c'est-à-dire des gens plus ou moins compétents dans l'invisible. Je vais le dire comme ça, parce que je ne sais pas le dire autrement, mais on n'est pas tous identiques dans notre rapport avec l'invisible, et donc il y a eu des périodes où l'Égypte était moins bien gérée, mais pas parce que c'était pas des bons techniciens, c'est parce que c'était pas des bons magiciens. Voilà ce que je peux répondre à votre question.
Est-il une école, une institution pour s'élever au-dessus de celui qui est attiré par ce monde de mystère, de pouvoir aussi?
La seule institution qui remplit toutes ces conditions, c'est la maison de vie, qui a plusieurs degrés. Voilà. Disons. Comme vous voyez le schéma du temple, entre le monde strictement matériel et le monde strictement spirituel, on va dire ça comme ça pour schématiser, il y a un intermonde ici, la salle hypostyle, qui est un peu comme le damier qu'on trouve dans certains sols de cathédrale. D'accord ? Cet endroit qui est éclairé par certains rayons du soleil, à certains moments de l'année et à certains moments du jour, va renseigner, pour celui qui apprend à le lire, un certain nombre de clés qui permettent l'apprentissage à la vie intérieure. Je vais le dire comme ça. Quand les égyptologues ont commencé à fouiller un peu plus en détail l'iconographie, ils étaient très surpris en regardant les murs des temples dans les salles hypostyles et les fûts des colonnes par l'apparente incohérence de la succession des images et des hiéroglyphes. Pour eux, au moins au départ, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et ils ont considéré, au départ, que c'était décoratif. Bon. Et un jour, quelqu'un s'est rendu compte que les ouvertures dans le plafond véhiculaient sur les fûts des colonnes et sur les murs des taches lumineuses qui bougeaient en fonction des heures du jour et en fonction des moments de l'année, parce que la déclinaison n'est pas la même. Et en délimitant ces zones éclairées temporairement, alors ils ont commencé à comprendre la lecture, c'est-à-dire la façon de lire les images et les hiéroglyphes, et ça a pris du sens. Ça, c'est un lieu d'apprentissage. Donc, c'est un espace dans lequel le temps, grâce à la lumière, va permettre de rentrer en contact avec certains enseignements. Et donc, comme c'est un lieu reclus, enfin entre guillemets, disons, un lieu de méditation, c'est en vivant dans la salle hypostyle, en fonction des moments du jour et de l'année, qu'on va faire grandir l'expression et les contenus qui sont proportionnés à l'écoulement du temps et à la lumière, qui sont les deux clés du fonctionnement de la salle hypostyle. La lumière et le temps sont les deux clés des transformations intérieures. Voilà. C'est pour ça que l'institution est profondément en rapport avec cet endroit-là, qui est encore une fois un lieu de passage, dans lequel les colonnes qui se terminent en forme de lotus et de papyrus sont ouvertes, les fleurs sont ouvertes et déployées proches de la voie sacrée, et refermées en bouton au fur et à mesure où on s'éloigne de la voie sacrée, qui est la voie lumineuse, qui passe par l'axe du temple. D'accord ? Pour schématiser, pour compléter la question, le temple égyptien, c'est une obélisque couchée qui figure un point dans l'horizon vers l'est. Au fur et à mesure où on avance, le sol monte, le plafond s'abaisse, les murs se rapprochent. D'accord ? C'est une obélisque couchée, symboliquement. Le point dans l'horizon, c'est la statue du dieu qui est dans le Naos. Donc, la progression de celui qui va dans le temple est une progression à l'identique. Les murs se rapprochent, le sol monte, le plafond s'abaisse, donc la matérialité diminue pour aller vers la spiritualité. Hein ? Il y a de moins en moins d'espace, ça de plus en plus étriqué, donc matériellement, c'est pas un lieu favorable à l'existence matérielle. Et cette disposition du temple va permettre, justement, de quitter l'attachement et la dépendance au monde matériel, qui est la clé de l'initiation osirienne. Il ne s'agit pas de détruire ça, mais de quitter l'attachement aux limitations du plan matériel. C'est ça le sujet.
Oui, vous avez dit que certains êtres qui étaient passés dans l'au-delà souhaitaient revenir dans l'entre-deux-mondes. Et je voulais savoir pour quelle raison.
Pour participer activement à l'entretien du monde. La responsabilité de celui qui possède ce pouvoir, c'est la perpétuité, entre guillemets, des institutions terrestres capables de générer le passage. Et donc, celui qui a cette possibilité de transiter va alimenter de sa propre énergie spirituelle ceux qui continuent matériellement sur Terre à la faire fonctionner. Quand je dis « il y a un paradis de travail », c'est-à-dire ceux qui se destinent à maintenir les structures de l'univers, ben les structures de l'univers, elles sont ici aussi. Notre monde matériel fait partie des structures de l'univers. Donc il y a cette possibilité de transit permanent. Surtout pour ceux qui, de leur vivant, ont satisfait à la pesée de l'âme. Parce que ça veut dire qu'ils continuent d'agir dans le plan concret, par une présence matérielle, mais en apportant une dimension de l'invisible qui, sans leur présence, n'existerait pas sur Terre. Puisqu'ils sont détenteurs d'une partie du ciel. L'archétype métaphysique s'est transformé la terre d'Égypte dans un morceau de ciel. C'est-à-dire que les temples, les pyramides, les tombeaux ne sont que des moyens de transformer la terre d'Égypte comme si c'était un ciel sur terre, un morceau de ciel sur terre. Voilà. Et tout ça n'est possible que si on entretient la présence divine. Il y a un hiéroglyphe très simple. Néter, qui veut dire présence divine. On ne parle pas de Dieu, on parle de présence divine, c'est très précis. Quand on voit ça, c'est un lieu sacré, présence divine. Voilà. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça veut dire que là où est planté ce drapeau, c'est comme un drapeau, hein, si vous voulez, là où est planté ce drapeau, il y a une possibilité d'établir une relation avec l'autre plan de l'existence. Voilà ce que ça veut dire. D'autres questions ?
Alors, je me demandais si, du coup, de nos jours, il restait encore quelque part des initiés de ce courant égyptien. Est-ce qu'on peut encore retrouver des personnes qui peut-être qui canalisent encore ces initiations ou qui peuvent encore les retransmettre d'une certaine manière? Est-ce que du coup l'énergie qui a été véhiculée dans ces temples est encore présente ou est-ce que tout a été détruit? Voilà, est-ce qu'on peut de nos jours d'une certaine manière, se reconnecter à toute cette initiation égyptienne.
L'Égypte, c'est fini. Je suis désolé. L'Égypte pharaonique, c'est terminé. Je pense que vous vous êtes rendu compte. Bon. Mais, la dimension initiatique et métaphysique qui, pour une période donnée, a été canalisé par l'Égypte, continue de fonctionner. Et continuera toujours de fonctionner. Les grands maîtres de sagesse qui ont parcouru l'histoire de l'humanité travaillent au même objectif, peu importe la langue qu'ils parlent, la culture dans laquelle ils sont, les circonstances historiques dans lesquelles ils s'incarnent, ils travaillent pour la même chose. Et ils continueront à travailler pour la même chose. Donc, la difficulté, s'il y en a une, c'est de ne pas s'attacher à une forme. L'Égypte, c'est une forme. Temporaire, de canaliser une réalité permanente. On peut tout le temps tout refaire, c'est-à-dire que le passage, la porte, on peut tout le temps l'ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'elle s'ouvre de l'intérieur de l'homme et pas de l'extérieur de l'homme. La porte s'ouvre de dedans. Donc on n'est pas contraint par des circonstances extérieures pour le faire. Évidemment, les conditions et le niveau de l'initiation égyptienne ne sont pas forcément réunis. En tout cas, c'est pas très public, tout ça. Bon. Mais, le parcours, lui, est parfaitement défini. Parfaitement défini. Le chemin qui va de l'homme extérieur vers l'homme intérieur, qui est le parcours réel, satisfait à un certain nombre de critères que les Égyptiens pratiquaient, que l'Inde ancienne pratiquait, que les traditions initiatiques du Mexique ancien ou des Incas pratiquaient, sont toujours les mêmes. Pour aller de l'homme extérieur vers l'homme intérieur, il faut l'immobilité matérielle, le silence et la capacité d'assumer l'obscurité terrestre. Des tas de pratiques existent pour permettre le développement de ces moyens intérieurs-là, dans toutes les formes d'enseignement philosophique et spirituel. Donc, les portes restent ouvertes. Mais, il faut comprendre une chose. Les portes sont des fausses portes. Et le monde égyptien en est rempli. Pourquoi ? Parce que ces portes sont faites pour les corps subtils et pas pour les corps matériels. On a découvert, dans des temples égyptiens et dans des tombes, des salles murées, avec, à l'intérieur, des enseignements sur les murs. La seule moyenne d'accéder était une fausse porte, une porte étroite. Si vous avez déjà vu ça en Égypte, c'est des portes très étroites, bon, de toute façon, on peut pas passer. Sauf, si on change de dimension. Parce que, on peut pas passer en trois dimensions. Mais on peut passer en deux dimensions. En deux dimensions, on n'a pas d'épaisseur. Si on n'a pas d'épaisseur, on peut franchir la fausse porte. Donc il y a plein d'enseignements partout, hein, qui sont aujourd'hui inaccessibles parce que on veut casser le mur pour aller voir ce qu'il y a derrière, mais on casse le mur, le système fonctionne plus, quoi. Ne prenez pas ça pour une blague. C'est une réalité, passer de trois dimensions à deux dimensions. Regardez comment sont dessinés les corps humains dans les images égyptiennes. D'accord? Ils sont de face et de profil en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? De face et de profil en même temps. Ça veut dire trois dimensions ou deux dimensions? Deux dimensions. Voilà. Donc le passage est possible. Donc, si on veut aller là, il faut enlever une dimension. Voilà ce que je peux répondre. C'est peut-être pas très encourageant, mais c'est pas un régime amaigrissant. Je dis ça tout de suite. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'autres questions? On a un peu de temps?
Y a-t-il des savoirs? Des leçons interdites entre gros guillemets, parce qu'il y a certaines croyances où il y a des savoirs qui sont écrits, qui sont matériels, mais dont on ne doit pas, les utiliser. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Si, j'ai très bien compris. Mais déjà. S'il y a des savoirs qu'on ne doit pas utiliser, on ne doit pas connaître qu'ils existent.
Oui, mais comme dans donc, toute religion, il y a des savoirs qui sont
utilisés
à des fins néfastes.
Mais, ah, néfastes, vous voulez dire. Mm-hmm. Ah, mais ça, c'est autre chose. Un pouvoir peut être utilisé de différentes façons. Avec le même couteau à beurre, vous pouvez étaler du beurre sur du pain ou blesser quelqu'un, ou pire. Est-ce que c'est la faute du couteau? Donc, c'est celui qui l'utilise. C'est la raison pour laquelle l'accès à certaines connaissances sont limités. Sauf si on a satisfait aux critères du jugement et de stabilité. Auquel cas, un certain nombre de garanties, très relatives, faut bien l'avouer, existe. Voilà.
Est-ce que ces garanties étaient relatées?
Oui. Oui. Oui, parce que La hiérarchie spirituelle, elle est constituée par des gens assermentés qui satisfont à d'autres critères qui permettent d'évaluer. C'est-à-dire le système de probation était très dur. C'est pas une probation de compétences matérielles, c'est une probation morale. C'est-à-dire que le niveau de moralité était la perfection. Donc, c'est pas qu'il y a peu d'élus, c'est qu'il y a peu de gens qui se sont élus eux-mêmes. C'est un peu différent dans la conception. Voilà. Pour les enseignements de nature publique, il existe un texte qui s'appelle les Maximes de Ptahoutep, qui est probablement le plus vieux livre de sagesse du monde, historiquement, au jour d'aujourd'hui. Voilà. Dans les Maximes de Ptahoutep, il y a beaucoup d'éléments, d'une part de conseils aux dirigeants de la société humaine, et d'autre part des conseils de sagesse simples, pour orienter le comportement. Voilà. Parce que la clé essentielle, c'est que une sagesse n'existe que si elle est transformée en comportement. C'est pas livresque, même si c'est un livre, mais les critères, c'est transformer la sagesse en comportement. Et c'est le seul thermomètre réel de l'évolution. Il n'y en a pas d'autre. Le reste, c'est du baratin. Ça n'a pas de sens. C'est vide de contenu. Voilà ce que je peux répondre à votre question.
Merci beaucoup, Didier.